Actu SF, les podcasts.
Bonjour et merci de venir nombreux assister à cette maintenant traditionnelle conférence, table ronde, avec les auteurs du pays invité. On trouve évidemment que c'est intéressant de vous permettre de rencontrer dès le vendredi les auteurs, les écrivains que nous avons choisis pour représenter un pays ou cette fois-ci une série de pays. Nous avons donc choisi les pays nordiques. L'explication sera brève, tout simplement parce que je lis plein d'autres choses que de l'imaginaire et depuis longtemps je lis les romans noirs, les polars nordiques, les thrillers nordiques et je sais tout le talent qu'ont les écrivains de cette région du monde. Et puis, évidemment, un peu surprise de constater qu'il n'y avait a priori pas beaucoup d'auteurs de fantasy, de fantastique et de science-fiction. Je me suis demandé si c'est moi qui regardais mal les publications, si c'était vraiment une absence ou s'ils étaient publiés ailleurs que dans les collections spécialisées. Évidemment, la réponse était celle-ci. Il y a des auteurs de fantastique, de science-fiction, de fantasy, des auteurs de grand talent dans les pays nordiques. En particulier ceux que j'ai invités aux Imaginales pour la ville d'Épinal, c'est-à-dire la Finlande avec Johanna Sinisalo, qui était une signature déjà connue dans notre pays, avec aussi Anders Fager, qui avait d'ailleurs obtenu le prix Imaginal, en tout cas qui avait eu la nomination à ce prix Imaginal et qui est très apprécié de notre jury, de nos lecteurs, et puis deux autrices islandaises, Hildur Knutsdottir et puis Agalín Bjarnsdóttir. Vous me pardonnerez si je prononce mal, je n'ai pas la maîtrise des langues nordiques comme nos excellents interprètes et je les remercie par avance évidemment Eric Bourri qui a d'ailleurs traduit un des deux romans et je remercie aussi Anne Colin-Duterail qui nous a rejoint un peu tardivement et avec tout son enthousiasme et qui est aussi une excellente interprète puisqu'elle connaît en plus particulièrement l'œuvre de notre invitée finlandaise parce qu'elle l'a traduite tout simplement. Et puis enfin Anders Fager qui a été qualifié par son éditeur de poche, Pocket, de Lovecraft suédois sous acide. Ça c'est drôle, ça a fait rire l'auteur, ça nous a fait rire, je pense que ça fera rire le public. C'est évidemment un auteur qui n'est pas une épigone de Lovecraft, mais qui est quelqu'un qui s'inscrivait dans cette lignée est capable de traiter l'horreur avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, beaucoup de recul, et qui nous fait découvrir aussi la réalité de la Suède. Nous le verrons, ces auteurs sont à la fois des auteurs enracinés dans leur pays, avec une tonalité particulière, mais ce sont aussi des écrivains et des écrivaines qui touchent par leur sujet à l'universel. Voilà, j'en dis assez comme ça. Ce qui compte, c'est d'entrer directement dans l'univers de ces écrivains. Et on va commencer par partir sous cette chaleur, sous le chapiteau, là où il fait un peu plus frais, un peu plus froid, l'Islande. Et on va commencer par l'île. L'Islande est une île, et ça se sent dans les romans de nos auteurs et de nos autrices. Nous pensons que tout cela est dû à des problèmes électriques, peut-être à un court-circuit dans les équipements intermédiaires. Nos services techniques et les sociétés chargées de la maintenance des réseaux travaillent activement. Les câbles sous-marins partent de plusieurs pays et atteignent l'Islande à des endroits différents. Il est peu probable qu'ils soient tous tombés en panne au même moment. Le problème provient sans doute de notre système. À votre avis, quelles en sont les causes ? Le directeur tout saute à nouveau. C'est une mauvaise manœuvre qui était à l'origine de la dernière panne de ce type. Une foreuse avait sectionné le câble sous-marin en Écosse. Une autre fois, des rats l'avaient rongé. Il en va ainsi de quand on vit sur une île au milieu de l'Atlantique et qu'on doit s'en remettre à la technique pour communiquer avec l'étranger. Et on va très vite se rendre compte, je n'en dis pas trop évidemment, que l'Islande est isolée. On ne peut plus en sortir, les communications n'arrivent plus. Et évidemment, ça va avoir des répercussions. Quand on est dans une île habituée à communiquer avec le monde et qui en ressent la nécessité, est-ce que, quand on écrit l'île, on pense à cette situation d'illienne, à cet enfermement et à cette sorte d'inquiétude qu'on ressent dans ce roman? Est-ce que ça provient, cette inquiétude? Est-ce que ça provient du fait que c'est une île, simplement? Ou est-ce que c'est l'histoire de l'Islande, l'inquiétude de l'isolement?
er bókin Saga Íslands í hnóðskur Saga Íslands sem að hérna, Íslands sem alltaf hrætt að verða einangrað eða já, kannski sagt eitthvað út af þessu
Já, Ísland náttúrulega eigi út í miðju Atlantshafi og það held ég mjög bara svona frumstæður ótti hjá okkur eins og öllum eigjar skeggjum að einangrast frá umheiminum
L'Islande, c'est une île qui est isolée donc au nord de l'Atlantique et chez nous, c'est effectivement une peur extrêmement primaire, primitive, de se retrouver complètement coupé du monde, comme sans doute d'ailleurs chez tous les Iliens, chez toutes les populations iliennes.
Og þessi hugmynd að skrifa eiguna sem einangra fyrirbæri, hún eiginlega vaknaði í fjármálarhruninu 2008. Þegar við óttuðumst að við værum að verða einhvers konar norður Kórea, við myndum einangrast frá öllum.
Et cette idée, enfin l'idée de départ du livre, en fait, elle m'est venue avec l'effondrement économique islandais de 2008, c'est-à-dire la grande crise, qui a fait de nous, enfin, c'est-à-dire que les Islandais avaient peur de devenir, grosso modo, une Corée du Nord numéro 2. Être mis au banc des nations.
Og ég skrifaði bókina ekki beinlínis til þess að gefa hana út, hún var meira svona eins og hugmynda tilraun, getum við sagt, til að sjá hvað myndi gerast, ég ákvað að nota skáldsuguna til að reyna að komast að því, hvað myndi gerast ef að við myndum missa sambandið við umheiminn.
Et en fait, au départ, ce livre-là, je l'ai pas écrit forcément dans un but de publication, j'avais pas forcément prévu de le publier. C'était plutôt, comment dire, une tentative pour rassembler des idées, enfin, une tentative de pour essayer de voir ce qui se passerait si l'Islande était complètement isolée. C'était plutôt personnel, c'est-à-dire que j'avais pas forcément envie de publier ce livre.
Deuxième petit extrait. Vous lisez. Je ne vois vraiment pas ce que nous allons pouvoir raconter aux gens, dit-elle. Nous ne savons presque rien. Nous publions des articles et des brèves indiquant que telle et telle chose ne fonctionne plus, mais nous n'avons aucune image globale de la situation. Personne n'arrive à en établir une. Elle prend un morceau de sucre dans le bol et le pose devant elle sur la table. Il n'y a aucune liaison téléphonique avec l'étranger, plus de courriel, plus d'internet permettant de communiquer avec l'extérieur. Aucun avion n'a atterri depuis cette nuit. Les contrôleurs aériens ne parviennent pas à entrer en contact avec les derniers avions qui ont décollé. Même chose pour les navires. Les gardes-côtes n'en voient plus aucun sur leur radar. Les radios amateurs n'arrivent plus à capter l'étranger. Or, je ne vois pas comment on peut s'y prendre pour hacker les ondes radio. Elle a soigneusement aligné 5 morceaux de sucre devant elle et les observe soucieuses. 5 problèmes à résoudre, 5 câbles vitaux qui se sont rompus, 5 énigmes insolubles. L'article qu'elle va écrire a pris forme dans sa tête. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Voilà, on n'en dira pas trop parce qu'évidemment, le livre va prendre forme. Il y a des personnages, et entre autres, le narrateur, essentiellement, est un personnage de journaliste. C'est sans doute pas par hasard, vous êtes vous-même journaliste. Et c'est un journaliste proche du pouvoir, on en connaît, y compris dans notre pays. À un moment donné, dans cette situation, l'Islande étant isolée, il va falloir faire des choix. Et comme disait une politicienne française, on choisit d'abord sa famille, et puis ensuite les cousins, et puis après, et en dernier, les étrangers. Cette vision du monde, de l'exclusion par cercle concentrique, est-ce que c'est ça qui est au cœur de votre roman au-delà de l'isolement ?
Kjarni bókarinnar kannski, hún var upphaflega landfræðilega einangrun en svo þegar áleið þá fór hún að snúast þjóðerni og þjóðernishyggju.
Effectivement, le cœur du livre, au départ, c'était pour moi, en tout cas, l'isolement géographique. Et puis, au fur et à mesure que j'ai écrit, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'était l'idée de nation et surtout le nationalisme et tout ce qu'il peut engendrer.
Og það ákveðin fatalismi í bókinni, eins og þeir sem hafa lesið hana hafa bent mér á, að einangrunin leiðir óhjákvæmilega til þess að til fjölda útrýmingar ákveðin sluta þjóðarinnar.
Et il y a quelque chose de presque fataliste dans le livre, c'est-à-dire que l'isolement mène immanquablement au nationalisme et donc à l'exclusion d'une partie de la population, voire à l'extermination d'une partie de la population.
Þannig að því leitinu til, já, þá það niðurstaða mín að ef að þjóðir eða hópar einangra sig frá umheiminum, þá leiðir það alltaf til ofbeldis.
Le message donc du livre, c'est que si des groupes de gens s'isolent du monde extérieur, finalement, ça mène constamment et immanquablement à la violence.
Réflexion pour les élections de dimanche prochain. Petit extrait, cette fois-ci, on va toujours être en Islande, mais avec Hildur Knudsdottir, on va parler de Sanglant hiver et de sa suite, puisqu'il s'agit d'un diptyque au départ pour la jeunesse. Mais je le précise, c'est vraiment un diptyque pour la jeunesse, parfaitement lisible, avec beaucoup de bonheur par des adultes. Petit extrait. Vous saviez que le mois de l'abattage commence samedi ? Maga grogna. Elle passait son temps à se moquer de l'intérêt de Torah pour le folklore islandais. Le mois de l'abattage, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? C'est le nom d'un mois dans l'ancien calendrier islandais. Je crois que ça désigne simplement l'époque à laquelle on abat les agneaux. Il n'y a pas à dire, en Islande, on a vraiment le chic pour trouver les mots qu'il faut, ironisa Bergljot. C'est d'autant plus drôle et plein d'humour noir que réellement l'abattage va très vite commencer dans le diptyque de Hildur Knudsdottir, puisque des extraterrestres débarquent, c'est pas un secret, on peut le dire, c'est dès le début, très vite, y compris la quatrième de couvre l'annonce, donc pas de problème. Et l'abattage va commencer, sévère et général. Extraterrestres, cannibales, zombies. Finalement, on retrouve aussi l'isolement dans votre roman, thème islandais. Et il y a aussi un mélange des genres entre une sorte d'horreur, de science-fiction et aussi d'interrogation politique, mais ça, on n'en parlera pas parce que ça sera la surprise de la fin du roman. Qu'est-ce qu'il y a chez vous, Hildur Knudsdottir, d'islandais, et qu'est-ce qu'il y a chez vous d'universel dans ces thématiques ?
Ég elska svona sci-fi og horror bækur og les mikið af þeim og sem þetta kannski svona amerísk hefð.
J'adore les livres de science-fiction et les livres d'horreur. J'en lis beaucoup. Disons que ça c'est peut-être plutôt une tradition américaine.
Þannig að mér langar rosalega að prófa að taka þessa svona hérna svona rótgrónu hefð og prófa plantinni bara á Íslandi í mjög íslenskum veruleika og sjá hvað gerðist.
Et donc ces livres-là dont je me suis nourri, livres d'horreur et science-fiction, qui sont vraiment très ancrés dans la culture américaine, moi j'ai eu envie tout simplement de m'en inspirer et d'essayer de planter ces thématiques dans un terreau islandais et de voir ce qu'il en sort.
Og þannig að það var með vilja gert að það margt svona mjög hverstaslegt og hérna svona landfræðilega fast á Íslandi og hérna að því mér langa að hafa allt sem rétt en svo koma náttúrulega geimverur leika sem rétt.
Et donc il y a effectivement des scènes dans le livre qui sont tout à fait réalistes et extrêmement islandaises parce que j'ai envie justement que les choses soient à leur place, que ce soit réaliste et puis arrivent effectivement ces extraterrestres.
En svo náttúrulega að lesa alls konar pólitík þarna inni, til dæmis svona við og hinir og, hérna, og svo líka eins og með sláturtíðina þá langaði mér svolítið að svona hvað ef að mannfólk við slátrum dýrum og hvað ef það við sem erum hvernig, okkur að slátra, hvernig það?
Ok, ég búin að gleyma byrjuninni. Évidemment, on peut lire toutes sortes de messages politiques dans mon livre. Maintenant, en ce qui concerne l'abattage des agneaux, qui répond à l'abattage ensuite des humains, j'avais envie de transmettre un peu le message de... Enfin, comment dire c'est-à-dire de réfléchir justement sur ce qu'on fait aux animaux, en fait.
Vous êtes végétarienne, Hildur Knudsdottir. Je l'avais soupçonné. Deuxième petit extrait, très court. Vous avez lu le journal, lança-t-elle ensuite, les nouvelles du vieux couple dans l'Est ? Quel vieux couple, ma chérie ? Demanda Thorbergur. Celui qui a disparu. Comme la famille de l'Ouest, ils vivaient eux aussi dans un coin reculé, tout seul au fond d'une vallée. comme leurs enfants n'avaient pas de nouvelles depuis plusieurs jours, ils sont allés voir sur place, mais ils étaient envolés. Comme ça, pouf ! Bragi remua sur sa chaise. L'idée que des gens puissent s'évaporer d'un coup le mettait très mal à l'aise. Y avait-il dans les montagnes des trolls, des ogresses qui descendaient à la nuit tombée et emportaient les villageois dans leurs cavernes pour les dévorer ? La vraie horreur arrive après, mais il y a un clin d'œil d'humour noir sur ce folklore islandais dans votre roman Eldur Knudsdottir.
Nei, í rauninni ekki og hérna og ég veit svo sem ekki alveg af hverju Íslendingar ekki ennþá farnir að leika sér mjög mikið með þessar þjóðsöguhefðir í fantasíum
Alors en fait, ouais, il y a pas vraiment de clin d'œil. Disons que nous, les Islandais, on n'a pas trop l'habitude de nous moquer ou de d'ironiser sur nos histoires populaires, nos contes populaires, où vous avez effectivement des géants, des trolls et tout ça qui... disons que c'est pas forcément un clin d'œil, en tout cas pas d'humour noir, et peut-être un clin d'œil, mais pas d'humour noir, entre les extraterrestres et ces êtres surnaturels qui sont censés enlever les gens.
Finalement, la première version, les trolls et les ogres, est rassurante dans l'histoire, et là, ce qui arrive après avec ces extraterrestres cannibales, ça c'est pas drôle du tout.
Já, í rauninni sko, það sem mér finnst, sko við erum klárasta dýrið á jörðinni og það sem mér finnst svona hræðilegasta tilhugsunin að það kemur eitthvað sem klárar en við og hvað gerist þá?
Já. Ok. Disons que la conclusion du livre, pour moi, ou un des messages du livre, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes sans doute les animaux les plus intelligents de la Terre. Et la question que je me pose, c'est que se passerait-il s'il arrivait des animaux qui sont plus intelligents que nous, pour nous, que deviendrions-nous
Og þess vegna það með vilja gert að það fullt í bókinni sem ekki útskýrt og það að því held að ef að þegar geimverurnar koma að hérna, þá munum við ekki skilja þær endilega.
Et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui restent en suspens dans le livre, qui ne sont pas expliquées sur les extraterrestres, par exemple, parce que si réellement des extraterrestres beaucoup plus intelligents que nous venaient, on ne les comprendrait sans doute pas.
Belle méditation sur nous qui aimons les histoires d'extraterrestres. Et peut-être un regard aussi sur une catégorie d'êtres qui s'imaginent que parce qu'ils sont les plus intelligents de la création terrestre, peuvent tous permettre, c'est bien sûr l'interrogation qu'on a bien sentie dans le roman, on en reparlera sur la sensibilité des pays nordiques au bien-être animal. Petit extrait, cette fois-ci on est parti avec Anders Fager pour le voyage de grand-mère, un des textes du recueil La Reine en jaune que nous avons remarqué, qui nous a donné envie, avec ensuite la furie de Boras, d'inviter Anders Fager pour représenter tous ses talents des pays nordiques. Grand-mère va partir en voyage, elle va se rendre dans le nouveau pays tout au nord. Elle va enfin rencontrer Armada et les enfants, toute la nouvelle génération, ceux qu'elle n'a jamais vus, mais auxquels elle manque néanmoins, à longueur de temps. Loshi et Kinda, Simon et Yann, les petits amis, toute la tribu. Ensemble, ils iront ensuite s'installer dans la maison que l'oncle Tannik a achetée. Elle se trouve à la périphérie de Hamnarstrand, une bourgade au nord, près de Gösunden. Ce nom ne signifie rien en suédois, mais c'est un lac. On le voit depuis la colline près de la maison. Il s'étale dans un vallon de verdure, telle une grande mer bleue. Le paysage est beau et paisible, désert, et le silence y règne. On va découvrir très vite que tous les membres de la famille ne sont pas nécessairement recommandables. On va très vite découvrir que cette famille installée en Suède a des origines dans l'Europe centrale, et que donc, dans cette Europe centrale, il y a des vieilles traditions et on se nourrit parfois, on n'en dira pas plus, mais on commence à subodorer qu'il ne faut peut-être pas rencontrer grand-mère nécessairement sur sa route. Mais vous avez vu que le début de l'histoire, c'est une description de la nature et on retrouve notre thème. Est-ce que la nature, même dans une histoire d'horreur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est important pour un écrivain suédois, Anders Fager ?
I have to say that no, not for me, and I don't know if I am the perfect suspect, the perfect example here, but a lot of this imagery in the Voyage de Grand-Mère is to make the reader feel safe.
Alors bon, il faut que je dise que chez moi, non, je ne pense pas que je sois particulièrement un si bon exemple de cela, je ne pense pas du moins. Beaucoup l'imagerie du Voyage de Grand-Mère, c'est pour que le lecteur justement se sente à l'aise, qu'il se sente en sécurité.
Au début.
Yes, because then you will take the side of these characters. You start to sympathize with them, and then when they start to eat other people, you still feel like, hi, they're doing pretty well.
Bah oui, en effet, parce que on veut que je voulais attirer la sympathie du lecteur pour ces personnages, qu'on les aime bien, et puis en fait, comme ça, et puis au fur et à mesure, quand ils commencent à manger les autres personnes, on se dit oh, ils sont quand même sympas. Hein.
And that is a trap for the reader. You have to. The reader will walk out on very thin ice and start to excuse atrocities because we liked these people.
En quelque sorte, je piège le lecteur parce que le lecteur, ben voilà, il commence à chercher des excuses aux personnages et les atrocités qu'ils commettent parce qu'on les aime bien, en fait.
Un autre de vos textes, quand la mort vint à Bodskar, c'est tout à fait différent. Ça démarre comme une histoire de thriller. Un commando armé arrive sur une île où vivent des familles suédoises a priori parfaitement paisibles. Et ils n'arrivent pas avec de bonnes intentions. Que font des commandos d'une armée nationale quand ils débarquent pour liquider leur propre population, c'est-à-dire, en fait, pour cacher la poussière sous le tapis? Évidemment, on ne va pas vous raconter comment se déroule l'histoire et comment elle se finit, surtout, parce qu'il y a un beau rebondissement. Il y a toujours une inquiétude dans vos histoires en Der Svager, que ça vienne des personnages ou de l'État. Est-ce qu'une bonne histoire d'horreur, surtout au XXIe siècle, pour vous, c'est une histoire où la menace vient de partout?
It's always good to sort of make people believe one thing and then scare them with another. The story you mention is harks back to the days when I did my service in the armed forces. We had constant submarine hunts in the Swedish archipelago, and it was for real. We had all the real stuff with us, and it was supposed to be Soviet commandos and stuff out there.
Alors, je crois que c'est toujours très bon en tant qu'écrivain de faire croire une chose au lecteur pour l'effrayer avec quelque chose qui vient d'un endroit complètement inattendu. Cette histoire, elle remonte à quand je faisais mon service militaire et qu'on mettait en place des chasses sous-marines dans l'archipel suédois parce qu'on avait peur justement de... on nous disait qu'il y avait des soviétiques dans le coin.
But then, it's not the Russians, and that's the fun part of the story.
Mais bon, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas les Russes.
Évidemment. On va partir maintenant ailleurs, en Finlande, avec Johanna Sinisalo, Jamais avant le coucher du soleil, un des premiers romans, sinon le premier traduit en France, et qui a permis au lecteur français de la découvrir. On a un petit article de dictionnaire, plus exactement d'un site http://www.fona.fi. Troll, synonyme diable des forêts, ancien croque-mitaine, gobelin, ogre, nom commun, Philippiticus Trollius, famille des Philippitecidae. Je passe un petit passage, je décris, c'est important qu'on connaisse un peu le troll. Poids et taille d'un mâle adulte, 50 à 75 kilos pour 170 à 190 centimètres, bipède plantigrade aux membres longs, dont la locomotion présente cependant de nombreux traits digitigrades. Pattes postérieures et antérieures, respectivement pourvues de 4 et 5 doigts armés de longues griffes, dont un pouce préhensile, que longue, terminé par un pinceau de poils, langue râpeuse, yeux rouge orangé, pupille elliptique, robe noire profond, fourrure dense à poils lisses et, chez le mâle, tête coiffée d'une abondante crinière noire. Exclusivement nocturne, se nourrit principalement de menus gibiers, de charognes, de nids et de jeunes oiseaux, passe l'hiver assoupi dans une tanière. La femelle, probablement fécondée à l'automne avant le sommeil, y est mâle, mais bat un ou deux petits au printemps et au début de l'été. Le mode de vie de ce prédateur particulièrement farouche, extrêmement rare, reste cependant mal connu. Population estimée en Finlande, 400 individus environ, classés parmi les espèces menacées. Johanna Sinisalo, vraiment, vous êtes sûr, il n'y a que 400 trolls aujourd'hui en Finlande?
Itse asiassa silloin, kun mä kirjoitin tämän, tai tämä kirja julkaistiin, niin monet ihmiset tulivat sanomaan minulle, että ovatko he nukkuneet jollain ratkaisevalla biologian tunnilla, koska he eivät muista, että tätä näistä eläimistä opetettiin koulussa.
Oui, en fait, quand ce livre est paru en Finlande, j'ai eu beaucoup de lecteurs qui sont venus me demander, mais c'est bizarre quand même, est-ce que j'ai vraiment dormi pendant tous les cours de sciences naturelles, parce que j'ai pas le souvenir qu'on m'ait parlé de ça.
Eli uskoisin, että olin saanut lukija vakuuttuneeksi siitä, että tällaisia villejä eläimiä elää Suomen luonnossa, ja ehkä niitä on enemmän kuin 400.
Et donc je pense que j'ai réussi à faire croire au lecteur qu'il y avait réellement des trolls en Finlande, et il est tout à fait possible qu'il y en ait nettement plus de 400.
Autre petit extrait. Ange, je ne sais pas ce que j'espérais trouver à la bibliothèque. Un bel ouvrage pratique à la jaquette en papier glacé intitulé « Comment nourrir vos animaux sauvages ?» avec dans l'index, par ordre alphabétique, glouton, lynx, martre, ours, putois, et voilà, troll. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à faire un tour au supermarché. L'irruption de la fantaisie, des contes et légendes traditionnels de votre pays et des régions nordiques, arrive avec ensuite un roman qui, par certains aspects, présente des côtés réalistes. Il s'agit d'un animal blessé qui se révèle être évidemment, vous l'avez compris, un petit enfant troll, un jeune troll, et qu'un des personnages du roman, le personnage principal, va accueillir chez lui. Évidemment, ce n'est pas simple parce que les trolls, vous avez bien compris que ce n'est pas toujours facile à gérer. Ceux qui en ont chez eux le savent. Johanna Sinisalo, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez pratiquer dans un roman, le fait de mélanger ce qui est le conte, la légende, la fantaisie, et un récit de type réaliste?
Mä pidän hyvin paljon tällaisesta realismin ja fantasian sekoittamisesta. Mun mielestäni lukijalla pitää olla oikeus koko ajan ajatella, että tämä voisi ihan oikeasti olla totta ja tapahtua minulle.
Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer dans mes livres, et j'aime beaucoup que le lecteur puisse se demander est-ce que c'est vraiment vrai ou pas.
Ja olin halunnut tässä kirjassa tehdä satuolennoista todellisia, ihan että ne eivät ole tällaisia myyttiolentoja, vaan ne ovat oikeita elossa olevia eläimiä.
Oui, c'est effectivement ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est-à-dire prendre un être de légende et le traiter comme s'il était vraiment une partie de notre réalité.
Ja tarkoitukseni ei ollut kirjoittaa satua, vaan pohtia sitä, että miten ihminen reagoisi, jos ihmisten keskuudessa eläisi eläin, joka voisi kilpailla ihmisen kanssa samasta ekologisesta lokerosta.
Et quand j'ai écrit ce livre, je n'ai pas du tout voulu faire une espèce de conte à propos des trolls, mais plutôt étudier la réaction que pourrait avoir l'être humain confronté à un autre animal qui partagerait ou qui voudrait prendre en fait sa niche écologique.
Autre petit extrait, cette fois-ci on part ailleurs, on part toujours en Finlande, mais avec joie et docilité, le bonheur d'être une femme dans une dystopie à court terme, où pour résumer, les femmes sont, comme vous le savez tous et toutes surtout, en deux catégories. Il y a d'abord ces femmes faites pour séduire, mais très limitées dans leur capacité de réflexion et qui ont donc besoin d'un tuteur. Mal comme il se doit, et puis quelques femmes problématiques qu'il faut évidemment stériliser parce que non seulement elles ont du charme mais elles sont intelligentes, et là évidemment elles sont extrêmement dangereuses parce qu'on ne se doute pas qu'une femme qui peut séduire les hommes est éventuellement aussi intelligente que c'est un être humain et qu'elle pourrait aspirer à l'égalité. Donc voilà un peu l'humour, et là on est là aussi, non plus dans la fantaisie cette fois-ci, mais dans la science-fiction à court terme, vous l'avez compris, et on est dans un univers féministe clairement affichée. La couverture ne vous y trompera pas pour ceux qui la verront sur les étals de notre bulle du livre. Alors un tout petit extrait, il s'agit d'un procès-verbal d'interrogatoire, c'est tout au début du roman, donc je ne vous spoil pas, comme on dit dans la langue de Shakespeare. On interroge une jeune femme qui a été agressée sexuellement, qui s'en est tirée, son compagnon est arrivé, on a mis en fuite l'agresseur, et donc on l'interroge surtout évidemment le monsieur, et à la fin, elle dit, la jeune fille, je me suis bien sûr précipitée à son aide et j'ai frappé l'agresseur au visage, j'ai cru l'avoir assommé, je me suis bien tournée pour voir si Vanna allait bien. C'est là qu'il s'est enfui. Après avoir constaté que Vanna n'était pas gravement blessée, ça c'est la jeune femme agressée, j'ai couru à la bonne d'alerte la plus proche, j'ai appelé les secours. Est-ce qu'on l'a arrêté? Si oui, je pourrais peut-être l'identifier. Réponse de l'interrogateur. Pour des raisons liées à l'enquête, nous ne pouvons pas vous donner pour l'instant aucune information sur l'avancement des investigations. Vanna demande, est-ce qu'on peut y aller? Ne parle pas sans y être invité. En ce qui vous concerne, l'affaire est close. Vous pouvez y aller. Mais vous devez d'abord tous les deux signer le procès-verbal d'interrogatoire. Allez hop, jeune fille, écris ton nom en bas de la page, on n'a pas le temps d'attendre que tu aies tout déchiffré. Il y en a un exemplaire pour monsieur, il te le lira plus tard à tête reposée. Ça y est, l'univers dystopique de Johanna Sinisalo est posé. Quand vous avez écrit avec joie et docilité, est-ce que réellement c'était un pamphlet féministe clairement affirmé que vous avez voulu écrire dans cette dystopie avec un humour d'une grande cruauté?
Yksi suurista innoituksen lähteistäni tätä kirjoittaessa oli tämmöiset niin kutsutut miesasialiikkeet, joita Suomessa ja muuallakin Euroopassa esiintyy.
Une de mes grandes inspirations quand j'ai commencé à écrire ce livre a été en fait les mouvements de défense virile, enfin de masculin, qui commençaient à émerger à l'époque, non seulement en Finlande, mais je pense dans le monde entier.
Ja mua alkoi kiinnostaa kovasti se, että minkälainen se maailma oikeasti olisi, jonkalaista nämä miesasiamiehet oikeasti haluaisivat, minkälaisina he naisensa haluaisivat.
Et donc la question qui m'intéressait, c'était de réfléchir à ce que pourrait être le monde que veulent ces militants donc de la cause mâle, si j'ose dire, et à quoi ressembleraient les femmes qu'ils voudraient réellement avoir.
Eli hyvin lyhyesti sanottuna tämä kirja on joidenkin miesten utopia, mutta käytännössä katsoen kaikkien naisten dystopia.
Et donc brièvement en pratique, ce livre est en fait l'utopie d'un certain nombre d'hommes et la dystopie de toutes les femmes.
Un beau résumé, un extrait très court, extrait du nouveau dictionnaire moderne de cette société. Virilo, substitut masculin. Abréviation de viriloïde, courant et familier, homme représentatif de la très grande majorité du sexe masculin, par opposition au groupe social masculin relativement restreint qui, du fait de ses limites, par exemple maladie chronique ou grave déficience physique, se caractérise par son exclusion du marché de l'accouplement. Infra-homme, infra. Les choses sont posées. Quand vous utilisez la science-fiction, la dystopie, vous le dites, c'est une sorte de rêves cauchemardés, de ce que serait le monde dont certains aujourd'hui rêvent. Est-ce que pour vous, la science-fiction, l'anticipation, est une façon de mettre une sorte de loupe grossissante sur la réalité d'aujourd'hui, si j'ai bien compris vos inquiétudes?
Mun mielestäni science fictionin ehdottomasti kaikkein suurin viehätys minulle on ollut se, että se käy aina dialogia nykyhetken tapahtumien kanssa. Vaikka se olisi kuinka kaukaisen oloinen, niin kuitenkin.
Oui, pour moi un des grands attraits de la science fiction, c'est que elle entretient un dialogue constant avec l'époque contemporaine, avec notre réalité, même quand elle a parfois l'air très éloignée de ce que c'est.
Vous avez entendu la réponse de Johanna Sinisalo. La science-fiction, l'anticipation, on vient de l'expliquer clairement, peut permettre de parler de notre société. Est-ce que Sigríður Hagalín Björnsdóttir dirait la même chose de l'utilisation qu'elle fait de l'anticipation dans son roman Lille?
Já, ég alveg sammála því. Ég held að vísindaskáldsugur og fantasíur og ævintýri séu þetta eru stórkostlegar leiðir til að skoða samfélagið og manninn utanfrá frá nýju sjónarhorni.
Oui, je suis complètement d'accord. Je pourrais pas être plus d'accord. Je pense vraiment que la fantaisie, la science-fiction, l'imaginaire, c'est effectivement les littératures de l'imaginaire, c'est effectivement le meilleur, sans doute un très bon moyen, en tout cas, pour examiner nos sociétés telles qu'elles sont, nos sociétés actuelles et bien réelles.
Bókin mín reyndar ekki, það engin vísindaskáldskapur eða fantasía eini, það eina sem gerist það sambandið rofnar án skýringa og svo bara logist framhald af því.
Pour moi, en fait, mon livre, ce n'est pas du tout de la science-fiction, hein, c'est simplement du réalisme tout à fait plat, dans le sens où c'est ce qui se passerait très, très probablement si tout contact était rompu avec l'étranger.
Et si, le célèbre interrogatif de science-fiction, d'anticipation, et si, c'est-à-dire on imagine quelque chose et qu'est-ce que ça donnerait ? Voilà, c'est finalement une bonne définition de notre littérature préféré avec la fantaisie et le fantastique. Björnsdóttir, excellent roman d'horreur, roman de science-fiction avec ses extraterrestres. On verra ensuite comment le monde réagit, mais ça, on le verra vraiment à la fin et on n'en parlera pas ici. Mais à l'évidence, l'horreur qui est infligée aux Islandais, c'est nous, vous l'avez dit très clairement au début, à la place des animaux. Est-ce que vous êtes vraiment, au travers de ce roman, qui est un très beau récit d'aventure, hein, il y a aussi des personnages, je le dis, auxquels on s'attache énormément et qu'on espère voir survivre. Est-ce que vous êtes clairement une militante de la cause animale? Est-ce que pour vous c'est important aujourd'hui? Est-ce que c'est un enjeu éthique pour notre civilisation?
Ég er sko vegan núna, en ég varð ekki þegar ég skrifaði bókina fyrst, sko.
Alors je suis vegan aujourd'hui, mais à l'époque où j'ai écrit le livre, je ne l'étais pas.
En ég myndi ekki segja að bókin sé endilega myndlíking fyrir endilega sem sagt, svona sláturtíð á dýrum, heldur má alveg líka lesa hana sem eitthvað komment á stríð.
Je dirais pas enfin le livre ne peut pas forcément s'analyser comme effectivement l'abattage des animaux, ce n'est pas forcément que l'abattage des animaux qui est décrit dans le livre, c'est aussi tout simplement une guerre entre des gens ou diverses espèces.
Og hérna, mér langar líka svona aðeins að vinna með það því að við á Íslandi erum svo vön því að lesum svona stríð í öðrum löndum og innrás í öðrum löndum.
Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en Islande, on a tout à fait l'habitude de lire des choses qui parlent de guerre dans d'autres pays.
Og það er svo auðvelt þegar maður er að lesa einhvern veginn átök annar staðar að fjarlægjast þeim. En ég held að einhver gera innrás í landi, þá skiptir ekki máli hvort það her af mönnum eða geimverur í rauninni.
Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de lire des descriptions de guerre ou de bataille quand elles se passent à 2000, 6000, 10000 km de chez nous. Là, le fait de placer cette guerre en Islande ou ces batailles en Islande, finalement, ça touche de plus près, quoi. Et ça ne change rien que ce soit une armée étrangère qui vienne envahir le pays ou bien des extraterrestres. C'est une guerre de toute façon.
Quand on lit vos romans, vos différents romans, qui sont des voix particulières et différentes, clairement, on a quand même l'impression qu'il y a quelques thématiques communes, et entre autres la thématique de la peur. Dans l'ensemble de vos romans, on a peur soit d'agression extérieure, on a peur de l'isolement, on a peur de certains personnages ou de certaines situations, on a peur de l'État et de ses services spéciaux, ou on a peur de ce que pourrait donner le déferlement des masculinistes agressifs qu'on peut voir surgir aujourd'hui avec un culot parfois, c'est vrai, assez monumental. Est-ce que ce cette inquiétude, cette peur est quelque chose, en tout cas, qu'on voit dans le polar nordique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'imaginaire nordique ? C'est une question qui s'adresse à nous quatre, alors donc on va... Voilà, on y va. Qui se lance parmi vous ? Voilà.
Já, ég held að hérna, Norðurlöndabúar náttúrulega eru vanir að takast á við bara erfiða náttúru og veður og almenn andstyggilegheit í veðrinu. Ég held að það sé okkur bara, já, þessi bara partur af okkar kultúru eins og öðrum kultúrum að takast á við óttan.
Disons que les nations nordiques, tous les peuples nordiques, on a l'habitude de vivre dans des environnements hostiles avec une nature qui n'est pas forcément très généreuse. Et effectivement, on a l'habitude de vivre dans la peur et de surmonter cette peur, en tout cas de l'affronter.
Hildur, même vision.
Já, og svo, ég meina, eins og Íslandi, við erum náttúrulega lítil þjóð í stóru landi og engin her og hérna, það getur hver sem komið og gert hvað sem
Et puis en Islande, il y a aussi le fait qu'on est une petite nation de 350 000 personnes, qu'on n'a pas d'armée, et donc, grosso modo, n'importe qui peut venir nous envahir et faire n'importe quoi.
Peut-être qu'on peut venir aussi si on est invité. Joanna Silisalo.
En varmaan voi puhua oikeastaan muuten kuin mitä kokemusta minulla on Suomesta.
Je ne peux en fait parler que de la Finlande en ce qui me concerne.
Mä uskoisin, että pelon aiheet on Suomessa science fictionissa aika yleisiä sen takia, koska meillä on hyvin rikkonainen ja sotainen historia esimerkiksi.
Oui, je pense qu'en Finlande il y a effectivement beaucoup de peur généralisée, principalement sans doute à cause de l'histoire de la Finlande qui a été traversée par de nombreuses guerres.
Meidän maamme on ollut useaan otteeseen muiden maiden valloittama tai osa niitä. Ja siinä takia uskon, että juuri tällainen vapauden ja itsemääräämisoikeuden pelko on meillä aika vahva.
Oui, notre pays a été colonisé plusieurs fois. Il a été sous la domination d'autres pays pendant très longtemps. Et je pense qu'effectivement, cette peur de perdre l'indépendance et la capacité de décider soi-même de son sort est quelque chose de très présent.
Anders Fager, la peur chez les écrivains suédois, et chez vous en particulier.
I find it hard to generalize about, actually.
J'ai un peu de mal à généraliser là-dessus.
I'm very much more since Sweden is a ridiculously safe country.
La Suède c'est un pays très sûr, pardon, on est même un peu ridicule.
You have to really think hard to be threatened by anything these days.
Il faut vraiment se gratter la tête pour se sentir menacé par quelque chose de nos jours en Suède.
And perhaps it's that why we write all these crime novels about monstrous serial killers, because our society is so safe, we need to make up monsters.
En fait, c'est sans doute pour ça qu'on écrit des polars avec des crimes atroces. Notre société, elle est si sûre qu'on doit inventer nos abominations.
And that is... I'm sorry about that.
Désolé, hein.
Peut-être que la France est un pays relativement sûr et que finalement, nous, c'est une paranoïa qui fait qu'on a peur chez nous. En fait, on devrait s'intéresser aussi à parfois la voix des écrivains et des gens des pays nordiques. En tout cas, la seule fois où j'ai été, c'était en Norvège. J'espère aller dans vos pays bientôt, parce que ça me passionne. Je pense qu'il y a des choses à entendre parfois. Et la littérature nous permet tout ça. Je voudrais poser une dernière question avant d'appeler à vous rejoindre sur la bulle du livre et à venir, évidemment, vous procurer leurs romans et les faire signer. Vous verrez, c'est vraiment des univers différents, mais tout c'est patent. Vous allez vraiment aimer les littératures nordiques, vous allez voir. La dernière question que je voudrais vous poser pour cette petite table ronde de présentation, c'est si on vous demandait, à partir de votre propre expérience d'écriture, qu'est-ce qu'apporte la littérature d'imaginaire et quelle est sa particularité, si vous pouvez en parler, dans vos pays ? s'il y a une particularité des littératures d'imaginaire dans vos pays.
Við á Íslandi búum að því núna við erum svolítið að skapa hefðina af því að við erum eiginlega við erum búin að vera föst í svona hérna, skandinavísku raunsæi bókmenntum einhvern veginn
Le problème avec la littérature de les littératures de l'imaginaire en Islande c'est qu'on est en train un petit peu de créer en ce moment maintenant en ce moment même notre tradition parce que jusqu'à présent on était un peu coincé dans la tradition du roman réaliste scandinave.